sixième question.
Avec quelle autre approche pensez-vous que la méthode que vous représentez pourrait être complémentaire ?
Pour le reconstructeur que je suis, toutes les méthodes qui font bouger de manière raisonnable le patient, c'est-à-dire dans le sens d'une non-douleur ou d'une douleur raisonnable, etc., sont susceptibles de réduire la viscosité interne du muscle et par là de lever des inhibitions réflexes qui, plus rapidement, en tous les cas après la crise. Petit problème conceptuel toutefois avec le renforcement de ce qu'on appelle les érecteurs rachidiens classiquement, car il est clair que ce concept ne résiste pas à une analyse biomécanique. Les érecteurs rachidiens n'existent pas. Nous avons des muscles antérieurs du rachis qui font de l'antéflexion ou de la rotation de la latéroflexion, et nous avons des muscles postérieurs qui font de la postéroflexion. Et je crois que c'est un devoir de discrimination que nous avons que de faire le tri des concepts et d'éliminer ceux qui sont invalides pour ne pas continuer à perroquetter des choses qui ne sont pas exactes au seul motif qu'elles font partie des meubles. Si les malades vont mieux, ce n'est pas parce qu'ils ont été remusclés, c'est parce qu'ils ont parce qu'on les a incités, forcés à bouger. La plupart des études comparatives de bon niveau entre toutes les méthodes, je pense à la méta-analyse de Busanich de 2006, à l'étude dans Spine de Machado qui est une méta-analyse aussi, à l'étude de Sherkin sur 321 adultes, Gillian, Kejman, Petersen, Machado de nouveau, elles font état, elles ne concluent pas qu'il y a une différence significative à moyen terme entre les différentes méthodes qui ont été étudiées et qui font bouger les gens. Là où il y a une différence, c'est quand on laisse les gens couchés, comme on a eu tendance à le faire à un certain moment. Donc il nous reste à nous, et je crois que ce sera le travail qui va suivre, à déterminer si une méthode est plus indiquée à telle ou telle phase de la lombalgie.
Merci. Gabor, s'agit.
Donc pour les complémentarités, je pense que McKenzie se marie très bien avec la thérapie manuelle en général. Et d'ailleurs, de partie intégrante dans le concept McKenzie, il y a déjà une part de thérapie manuelle. Le thérapeute intervient seulement si nécessaire, mais il peut tout à fait intervenir en restant tout à fait dans le cadre de McKenzie, mais dans le cadre de la progression des forces. Et ce qui permet d'inclure dans cette progression des forces un ensemble de techniques utilisées en thérapie manuelle, bon, notamment dans le monde anglo-saxon, chez Maitland et chez Cyriac, se met un bon nombre de techniques ostéopathiques, comme c'est plutôt dans le cadre de ce qui est pratiqué en France. La méthode McKenzie se marie très bien aussi avec les mobilisations neuroméningées, qui est un concept relativement peu courant en France, mais qui se développe et qui est très développé dans les pays anglo-saxons. Et finalement, comme j'ai déjà indiqué au début de notre entretien, je pense que McKenzie, notamment avec les chroniques, se marie très bien avec toutes les stratégies de reconditionnement, que ce soit un travail des spinaux tels que l'a développé Manish dans les pays nordiques, que ce soit avec le travail de Yves Châtrenay avec le redressement axial actif, et que ce soit avec le reconditionnement global, parfois, comme le préconise Tom Meyer. Finalement, et juste une petite remarque par rapport à ce que vient de dire Magnizan, moi, il me semble que le critère d'évaluation d'une méthode ne doit pas être biomécanique. Le critère d'évaluation d'une méthode, c'est avant tout, est-ce que le patient a moins mal? Et est-ce qu'il est plus fonctionnel? Et je pense que c'est vraiment à cette aune qu'il faut mesurer l'utilité d'une thérapeutique. Et donc, bon, mais une fois de plus, on diverge légèrement sur le...
Mais non, pas du tout. D'abord, on converge. Tu es en train d'enfoncer une porte ouverte. Quel est le kinésithérapeute qui ne se préoccupe pas de la douleur de son patient?
Ok.
Et de la fonction.
Donc, d'abord, c'est bon?
Oui.
Toi. Donc, Yves Châtrenay pour la thérapie active en redressement axial.
Oui, donc pour simplement compléter la discussion précédente par rapport aux grands critères, on est bien tous d'accord que les critères douleur, les critères fonctionnels sont les critères prioritaires, mais dans la démarche scientifique, si on peut corréler l'amélioration de ces grands critères généraux fondamentaux avec d'autres critères de mobilité, d'analyse de force, de dysmorphisme, etc., peu importe, on fera très certainement avancer quand même l'aspect mieux cerner et mieux cibler de ces prises en charge de lombalgique. Voilà. Dans la complémentarité, oui, à l'évidence, la main tendue du mariage de Mackenzie avec le redressement est réciproque, c'est naturel. D'ailleurs, nous avons, nous, dans notre pratique et dans nos équipes de rééducation, des gens formés à la technique de Mackenzie. Donc, on est dans une même approche de la complémentarité de ces deux techniques. Il y a effectivement une parfaite adéquation dans ce qu'a dit Gabor précédemment. Voilà, je crois que je ne veux pas être trop long.
Pierre, est-ce que je peux intervenir ?
Oui.
Yves et Gabor, je voudrais surtout pas troubler une idylle naissante.
Les fiançailles existent depuis déjà bien longtemps.
Alors, il faut publier les bancs et je m'en réjouis et je croyais que je compatis à votre plaisir réciproque. Il y a juste un point qui me gêne. Gabor, arrête-moi si je me trompe. À peu près 80% des lombalgies sont étiquetées par Mackenzie comme étant discogéniques. Je me trompe ?
Comme étant des dérangements.
C'est ça, donc un disque qui est plus ou moins délabré, en pas bon état, etc. C'est bien ça ?
Pas absolument nécessairement, dans la mesure où il ne faut pas confondre l'entité clinique bien définie qui est le dérangement et qui est identifiable et par un certain nombre de critères très précis et le modèle conceptuel qui est le modèle ischial.
Dans tous les cas, il y a un certain nombre de lombalgies, et semble-t-il la plus grande majorité pour Mackenzie, où la lombalgie est due à un problème discal. Je me trompe ou pas ?
C'est correct.
Ok. Alors, moi, je me pose la question suivante. Que ce soit dans le redressement axial, franchement, de Yves, ou que ce soit dans l'accord que tu en as donné pour Mackenzie, comment concilier ça avec les nombreuses études qui ont eu lieu il y a quelques années, qui ont été initialisées par Nachemzone, qui ont publié dans Spine, pour Nachemzone en 1981, pour Wilke en 1999, pour Lelon, pour Drevet en 1991, et je cite Drevet. L'étude des contractions musculaires des chaînes dorsolombaires a réservé le plus de surprises. Il parle de la pression intradiscale. La mise en jeu de ces chaînes est suivie d'une élévation instantanée et majeure de la pression intradiscale. Elle s'accroît de 100 à 400% de sa valeur de base pour des contractions relativement usuelles, assimilables à celles réalisées lors de stress de l'environnement. Les pressions intradiscales peuvent atteindre des 9 à 10 kg par centimètre carré, valeur constatée lors des efforts de toux bien connus pour déclencher une lombalgie chez un sujet prédisposé. Il apparaît que les chaînes musculaires agissent directement, intensément et de façon immédiate au niveau des structures discales. Leur mise en jeu quotidienne par le biais de facteurs de l'environnement suffit à élever la pression intradiscale à des valeurs proches de celles susceptibles de déclencher un épisode aigu. Alors ma question c'est comment peut-on prétendre protéger le disque en exerçant sur lui des pressions qui sont critiques ?
Je peux répondre ?
Oui.
Oui, alors... Je crois que là, Michael, le problème, c'est que tu confonds, et ça je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la physiologie musculaire du redressement axial avec celle des muscles postérieurs dorsolombaires. C'est un petit peu comme si on voulait réduire, permettez-moi l'image, l'activité du genou à un quadriceps. Ou que l'on considère que la rééducation du genou, c'est s'occuper de l'extension en rééduquant le quadriceps, mais qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi des fléchisseurs, qui sont des ischio-jambiers, et qu'on rééduque également des fléchisseurs. Jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'en chaîne fermée, les deux travaillent ensemble et que les fléchisseurs deviennent des extenseurs. Donc c'est la même philosophie, c'est exactement la même image, à savoir que la physiologie vertébrale, et non plus dorsale des muscles postérieurs, la physiologie globale, elle fait appel à une globalité des muscles postérieurs, mais associés en co-contraction avec des psoas, avec des transverses, avec des carrés des lombes. Et c'est cette globalité qui va redonner cet effet de soulagement au niveau discal, parce que la dynamisation qui est de l'ordre de 1,6 cm entre une position relâchée et une position redressée, il faut bien qu'elle s'opère en décomprimant les étages discaux. On peut pas...
Alors, je ne comprends pas comment ces études peuvent affirmer, elles ont l'air sérieuses, que,
oui, si
que
fait,
toute contraction, que ce soit...
Oui, mais excuse-moi, je finis. C'est normal, si on contracte uniquement les muscles postérieurs, je suis d'accord, et la preuve en est ces publications, qu'on va augmenter la pression intradiscale.
Alors, il précise aussi, c'est... l'élévation de la pression intradiscale apparaît immédiate et importante lorsque la sangle abdominale est sollicitée.
Oui,
là, on va laisser répondre Gabor, puisqu'en fait...
C'est-à-dire que si on contracte uniquement la sangle abdominale, mais si on n'est pas en co-contraction, eh bien on a effectivement le même résultat.
Alors, si tu
attends, Michael, s'il vous plaît, je vais reprendre la main. Donc là, on va laisser répondre Gabor, parce que la question lui était destinée. Gabor, s'agit ?
Bon, je pense qu'il s'agit d'un faux problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'équation entre pression intradiscale et douleur. Et en fait, je pense que notre ennemi n'est pas nécessairement la pression intradiscale excessive. En fait, au moins dans le modèle conceptuel McKenzie, la position, c'est qu'en fait, il s'agit avant tout d'agir sur la dynamique intradiscale. Et s'il existe une partie du nucléus qui s'est excentré dans une fissure, de la rapatrier dans la partie centrale du disque. Et ceci dit en passant, créant des hyperpressions dans la partie correspondante du disque pour faire migrer le nucléus dans la bonne direction. Donc en fait, je pense que il ne faut pas se focaliser sur l'augmentation de la pression intradiscale, puisque bon, le disque est fait pour, c'est fait pour prendre de la pression, c'est fait pour transmettre des forces de haut en bas, et c'est pas nécessairement quelque chose qui va générer des douleurs. Et donc par rapport à ça, le fait d'avoir un bon tonus musculaire, s'il permet au patient de contrôler les mouvements qui potentiellement déplaceraient les choses dans le disque dans le mauvais sens, ce renforcement musculaire sera tout à fait sédatif, même s'il produit des augmentations de la pression intradiscale. Donc ça serait vraiment l'accent sur lequel je voudrais mettre ma réponse.
Mais d'un autre côté, tu approuves toutes les techniques de renforcement des spinaux, alors que le Drevet précise le travail rééducatif peut difficilement se concevoir s'il élève la pression intradiscale, comme nous l'avons souligné, une contraction même modeste des chaînes musculaires postérieures élève la pression intradiscale à des seuils critiques.
Mais en fait, moi, il me semble une fois de plus que là, on est centré sur un aspect biomécanique, alors que bon, si on examine notamment le travail de Manish auquel je faisais référence antérieurement, c'est quelqu'un qui fait un renforcement brutal, quantitatif des spinaux, et c'est à ma connaissance une des rares approches qui a montré des résultats tout à fait convaincants et durables sur des lombalgies chroniques. Alors qu'il fait un travail tout à fait quantitatif et du renforcement des spinaux. Donc, il y a, mais une fois de plus, je pense qu'il ne faut pas se centrer sur l'aspect biomécanique et s'omnubiler par la pression intradiscale. Il faut surtout se poser la question, est-ce que le patient va mieux? Et la réponse, à mon avis, est claire dans la littérature, notamment ces études de Manish, qui sont des études de très bonne qualité, qui montraient que, en faisant ce travail qui, obligatoirement, génère des pressions intradiscales importantes, on a un soulagement durable, qui plus est, des douleurs du patient, une amélioration fonctionnelle.
Oui, bien sûr, Gabor. Simplement, tu sais comme moi que une étude pour être scientifique, une observation pour être dite scientifique, ne doit pas simplement présenter l'observation, mais doit aussi proposer un mode d'explication des phénomènes observés. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse sur la biomécanique. Si l'auteur que tu cites et qui fait un renforcement brutal obtient des résultats, première question, a-t-il occulté tous les cas qui ont été perdus de vue parce que les gens ont été obligés d'arrêter à cause d'une douleur augmentée ? Deuxième question, à quoi sont dus les résultats positifs? L'explication que j'aurais tendance à en donner, c'est justement la vasodilatation intramusculaire qui fait baisser la viscosité, ce qui est confirmé d'ailleurs par l'étude de Colney, qui précise que les résultats sont obtenus indépendamment de la diversité des programmes proposés, et puis qui recommande d'éviter que les gens ne se penchent en avant le matin, avant 11h du matin, parce qu'ils sont froids, quoi. Les muscles sont froids et c'est là qu'on risque les accidents. Donc, une méthode qui fait bouger, qui provoque une vasodilatation, aura forcément des résultats positifs. Le problème, c'est de savoir pourquoi et puis d'éviter les accidents et les aggravations.
Oui, bon, il y a une véritable boîte de Pandore là, qu'on pourrait continuer à explorer.
Mais c'est je crois que de toute façon, pour les personnes qui nous écoutent, on voit le niveau d'avancement aussi de réflexion que vous avez eu sur les différentes techniques que vous utilisez. Et donc, ça va aider évidemment nos auditeurs aussi à approfondir parfois leurs connaissances sur des sujets qu'ils n'avaient peut-être pas explorés aussi loin que vous. Donc, les questions que vous soulevez et les réponses que vous apportez vont aider certainement aussi nos auditeurs à mieux comprendre et à essayer de se positionner et à mieux réfléchir sur leurs actes. En définitive, quand même, on observe que ce que vous préconisez dans la prise en charge de vos patients lombalgiques, c'est quand même un traitement actif où vous faites participer le patient. Donc on s'éloigne quand même de la thérapie classique qui était d'allonger le patient sur une table à plat ventre avec un coussin sous le bassin et à lui provoquer de la chaleur dans le dos par différents moyens, à appliquer quelques méthodes de massage par différents moyens mais pas vraiment spécifiques, et le patient repartait chez lui en attendant la séance suivante. Donc là on voit que l'évolution aussi sur la prise en charge du patient lombalgique est là pour apprendre au patient à mieux se servir de son corps, avoir une prise en charge adaptée au patient, quels sont ses gènes, et essayer de trouver des moyens d'y remédier. Et là, ce que vous soulevez après sur les questions biomécaniques, évidemment, c'est l'interprétation que le thérapeute essaye d'appliquer pour comprendre le phénomène qui a pu se produire. Mais c'est vrai qu'on en est encore peut-être à un niveau pas suffisant pour comprendre tout ce qui agit en thérapie physique, et que dans 10 ans, on pourra dire on connaissait pas tel et tel élément, et ça va nous aider.
Fin de la question numéro 6.